RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous. Bienvenue sur RMC, RMC Story pour les GG, pour les grandes gueules. La vie est un éternel recommencement. On repart exactement de la même manière qu'on a conclu la semaine dernière. On repart sur le climat social, sur les violences, sur les manifs. Bonjour Olivier.
Oui, tout va bien en France en ce moment. Il fait bon vivre, notamment dans ces villes où les poubelles ne sont pas ramassées. Bonjour à tous.
Nous sommes avec le professeur d'économie Thomas Porcher. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
Le Charles Consigny, avocat, est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour,
bonjour
maître.
Bonjour à tous.
Et puis Zora Bitton, cadre de la fonction publique, nous accompagne. Bonjour ma chère Zora.
Bonjour à tous.
Dissolution des braves. Vous savez, les brigades des voltigeurs, les brigades à moto qui interviennent face aux éléments radicaux dans les manifs. Dissolution des braves, pour ou contre? On en parlera tout à l'heure à 11h20, 10h. Emmanuel Macron, le président de la République, peut-il reprendre la main et apaiser le climat? Ça, ce sera pour 10h. Premier sujet de discussion maintenant, les violences à Sainte-Soline. Une manifestation interdite, une ultra-gauche des mouvements radicalisés, anticapitalistes, anti-force de l'ordre, qui se donne rendez-vous sur place pour casser du policier. Au milieu de manifestants anti-bassines pacifiques, au milieu d'élus avec des écharpes tricolores venus se donner la main et dire non à ces grandes bassines. En fait, qui est responsable de la tension? Est-ce que ce sont les forces de l'ordre? Est-ce que ce sont les manifestants? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.
Une grenade dispersion qui est tombée à mes pieds. Elle a explosé, c'est allé dans ma fesse droite. J'ai un trou plus gros qu'un œuf.
Pas de provocation ici! C'est protection des blessés!
Quand je vois les moyens démesurés qui sont mis en œuvre pour par l'État pour protéger une aberration, moi ça m'interroge.
Ce dispositif est extrêmement important. 3200 policiers et gendarmes, des engins blindés, de nombreux hélicoptères.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance.
Si vous avez regardé les informations tout le week-end et les réseaux sociaux, vous avez vu ces scènes vraiment d'une violence incroyable. Et on a ce matin encore un manifestant qui est entre la vie et la mort après ces affrontements samedi dans les Deux-Sèvres sur le site de Sainte-Soline.
Oui, ce sont des scènes de guerre à la campagne, hein, dans un champ. 62 couteaux, 67 boules de pétanque, 7 artifices, 6 bidons d'essence, 12 pierres éparpins, 13 haches et machettes, 5 matraques. Des battes de baseball également. Tout ça a été retrouvé des manifestants. Donc le bilan, 47 gendarmes blessés. Un manifestant de 30 ans, tu l'as dit, dans le coma après un traumatisme crânien. 3 manifestants en tout, dont une femme de 19 ans et un autre homme de 27 ans grièvement blessé. Tout ça pour des bassines d'eau. Le plus surprenant, c'est la présence d'élus, comme l'écologiste Marine Tondelier, la nouvelle patronne des Verts, ou Clémence Guettet, la députée insoumise, qui participe à des manifestations interdites et qui sont d'ailleurs très ambiguës dans leur condamnation des violences, parce qu'elles renvoient finalement dos à dos casseurs et policiers. Donc il y a une espèce de complaisance qu'on peut entendre dans la bouche de certains éditorialistes depuis ce week-end. Moi, j'ai entendu parler, par exemple, de désobéissance civile légitime. Qui sont vraiment les responsables? Je rappelle que la manifestation, finalement, ce sont des casseurs qui l'ont organisée avec l'idée d'en découdre. On savait que ça allait se passer comme ça. D'ailleurs, Darmanin le dit, j'ai mobilisé des engins, des blindés, etc. Parce qu'il savait que ça allait être la guerre et ça a été la guerre.
Zora?
Si on prend les choses d'une autre façon, on pourrait réécrire le scénario de la façon suivante. Une manifestation interdite sur un terrain privé. Certains défendent cette idée-là, qu'on peut faire une manifestation interdite sur un terrain privé. Les policiers anticipent parce que ceux qui ont organisé cette manifestation déclarent vouloir en découdre et déclarent pas du tout vouloir faire une petite manifestation pacifique, j'allais dire faire des pique-niques familiaux, etc. À partir de ce moment-là, à partir du moment où les gens vous disent « Je vais enfreindre la loi et j'ai l'intention d'attaquer la République parce que je ne suis pas d'accord avec cette histoire des bassines. » Que doit faire la République? C'est-à-dire, que doit faire l'État? Soit il dit bon, bah écoutez, allez-y, vous avez le droit de manifester, et puis on viendra au cas où. Auquel cas, là, la police n'était pas du tout mise en cause et advienne que pourra, entre les casseurs et ceux qui sont pacifiques, ils se débrouillent entre eux et puis on verra quand on comptera les morts à la fin. Hein. On peut aussi voir les choses comme ça. On dit à la police, ne venez pas. Comme ça, la police n'est pas impliquée. Enfin, parce qu'il faut essayer d'écrire un peu tous les scénarios possibles. Ou alors, la police intervient parce qu'elle joue son rôle et qu'elle se dit, un, cette manifestation était interdite, deux, c'est sur un terrain privé, et trois, on a quand même des signaux, et en tout cas des déclarations qui expliquent qu'une petite minorité va en découdre. Donc, on peut pas à chaque fois reprocher à la police d'être présente et de jouer son rôle de maintien de l'ordre, et quand elle maintient l'ordre, on lui reproche... Enfin, on marche sur la tête. Il faut quand même pas oublier qu'il y a eu 7 ou 8 manifestations pacifiques dans Paris et dans toute la France où il n'y a eu aucun problème ni avec les manifestants ni avec la police. Donc ça prouve bien que quand les manifestations sont pacifiques, la police n'intervient absolument pas.
C'est quand les radicaux d'ultra-gauche arrivent, mais c'est la merde.
Mais évidemment. Et moi, je veux bien entendre que dans cette manifestation, il y avait des gens pacifiques, mais n'empêche que les gens qui sont radicaux, il faut bien à un moment donné que l'ordre soit rétabli. Donc on vient pas à des manifs avec toute cette
avec, attirail. Avec des boules de pétanque, avec sûr, des haches, avec sûr, des cutters. Hein, Thomas Porcher.
Mais je rejoins un peu ce que dit Zora. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se poser la question de est-ce que l'intervention fait pas plus de mal qu'autre chose ? Parce que bon, là, on est dans des champs, ok, c'est une propriété privée. Mais est-ce que si on n'était pas intervenu, ça aurait donné quoi ? Ça aurait donné le Larzac.
Voilà. ZAD.
Non mais
Notre-Dame-des-Landes.
D'accord, mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu de 3 blessés chez les manifestants et 3 policiers blessés aussi. Je crois que c'est ça. Il y a combien ? C'est 3 et 3.
Non, 47 gendarmes blessés.
Voilà, il n'y aurait pas eu ça. Et voilà, sur un champ, peut-être qu'après, voilà, il y a un élu.
Non, mais il y a une ZAD. En fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que des gens s'installent dans un terrain privé,
oui, mais...
comme à Notre-Dame-des-Landes, et ensuite, tu ne peux plus les déloger.
D'accord, mais.
Et après, il y a de la violence. Souviens-toi, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait beaucoup de violence.
Oui, mais. Là, en fait, je pense que tout ce qui a été découvert, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit entre eux, que c'était à destination d'entre les pétanques et tout. Je pense que c'était, tout le monde prévoyait un affrontement avec la police parce que il y avait déjà eu des tensions la dernière fois. Donc tout le monde s'attendait à ça. Je pense que les gendarmes, ce qu'ils ont fait au départ, c'est qu'ils ont essayé d'empêcher ce rassemblement bien en amont, en faisant des contrôles routiers, etc. Ça, c'est une bonne chose. Après, sur place, je veux dire, là, on est sur un champ. Si c'est le Larzac numéro 2, ils sont entre eux. Bon, bah, très bien. Et après, on envoie un négociateur, un élu, qui parle des bassines.
Dans 3 ans, t'as une ZAD toujours sur place.
C'est de la spéculation, ça. Mais pas sûr. Notre-Dame-des-Landes, c'est particulier. C'est pas sûr que ça se reproduise. C'est pas sûr que ça... Et là, les affrontements, en tous les cas, le maintien de l'ordre, comme il a été, ça a été un échec. Si finalement, ça a créé des tensions, on a des blessés des deux côtés, personne peut se réjouir de cette situation-là.
Ah non,
alors qu'on parle d'un champ, pour le coup, les bassines, faudrait en discuter parce que là,
il y a pas mal de fake news sur les bassines.
On peut faire un débat, mais là, c'est pas du débat, c'est de la violence.
Non, mais il y a un problème sur les. Il y a un débat sur les bassines. Oui, certes, il y a eu beaucoup de débats qui ont été faits avant, mais là, il y a une nouvelle problématique qui s'est ajoutée à ça. C'est la pénurie d'eau, qui n'était pas le cas dans les débats en 2008, etc.
D'où la mise en place de bassines.
Il y a une pénurie d'eau là, de manière globale. Donc la gestion de l'eau en pénurie va être différente de celle qui a été discutée depuis 10 ans sur la création de ces bassines. Ça, c'est un vrai débat qu'il faut poser.
Là, c'était pas des débats, c'était pas des tables rondes pour débattre, là. Hein.
Non, mais parce que tout le monde se préparait à un affrontement. Mais c'est. Je veux dire, moi, quand il n'y a pas le débat, il y a toujours l'affrontement.
On a arrêté des types à la frontière espagnole.
Ouais.
Ils venaient pour en découdre parce qu'ils savaient qu'il y avait un rassemblement, on pouvait casser du flic.
Mais parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir un maintien de l'ordre de cette force-là. Et c'est très bien d'arrêter les gens à la frontière en Espagne. Ça, c'est très bien en amont de faire ça.
Ils viennent d'Espagne.
Après, sur le moment, si tu ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Si c'est le Larzac numéro 2, bah, je préfère ça, moi,
que
le
temps de
baisser. Mais on sait pas, ça, on n'est pas sûr.
Pourquoi tu as Larzac, t'es sûr, mais pas Notre-Dame-des-Landes?
Non, mais en tous les cas, ça commencera par Larzac et peut-être qu'après, ce sera Notre-Dame-des-Landes.
Larzac, c'était sympathique. Les temps ont changé maintenant, Thomas, malheureusement.
Larzac, pas au début, hein. Si je me souviens bien, je crois qu'il y avait eu un mort, hein, sur le plateau du Larzac. Faudrait retrouver.
On va demander à José Bové, qui était.
Oui, qui était, c'est vrai. Monsieur Maître Consigny.
Moi, je pense qu'il y a une mouvance d'extrême gauche très violente qui ne cesse ces dernières semaines d'agir. Que ce soit ici ou dans d'autres manifestations, et qu'on peut pas laisser ces gauchistes furieux impunément commettre leurs méfaits. Donc je suis pour une réponse ferme à ces agissements. Ceci étant dit, je trouve que la question de l'écologie violente, elle est réelle, puisque la crise écologique, elle est réelle. Et on a quand même le sentiment que les gouvernants, bien sous tout rapport, n'agissent pas suffisamment dans le sens de l'écologie. Donc on verra peut-être que dans quelques années, on s'apercevra que les adversaires des bassines et dans l'ensemble les militants écolos, y compris les militants violents, étaient ceux qui avaient raison et que en fait l'État protégeait des systèmes anti-écologiques et qui nous emmenaient dans le mur. Mais je pense que la France ne peut pas se payer le luxe de devenir une espèce de ZAD géante où tout est impossible, où tout est interdit au nom de l'écologie. Je pense qu'on doit quand même avoir en tête qu'on est au milieu d'une compétition internationale qui nous oblige quand même à travailler un tout petit peu et à s'activer un tout petit peu, ce que beaucoup de gens ont l'air d'oublier. Et ensuite, ne pas être les idiots qui s'interdiraient tout un tas de techniques, tout un tas d'activités, alors que plein d'autres pays dans le monde y procèdent. Je suis absolument certain qu'il y a des dizaines de pays dans le monde où il y a ces méga bassines et où personne ne pose la moindre question. Parce que tout le monde s'en fout. Je trouve que il faut. Je considère en fait que il ressort du gouvernement de faire davantage pour l'écologie et de ne pas sur ce sujet-là se limiter comme il le fait sur tous les sujets à de la communication. Je pense d'ailleurs que Monsieur Béchu aurait dû être changé depuis longtemps, remplacé depuis longtemps, puisqu'on voit qu'en fait il est pas suffisamment performant à son poste. Ouais. Lui et Panier, etc., Runacher, etc., de tout ça, et je trouve qu'il faudrait changer l'équipe. Mais il faut changer l'équipe.
Même Borne.
Il faut changer. Ils sont nuls. Oui, donc, il faut mettre des vrais gens forts pour l'écologie. Et s'il y avait des actions concrètes.
On a eu Nicolas Hulot, on a vu ce que ça a donné.
Moi, je pense que s'il y avait des vraies actions pour l'écologie, il y aurait moins de violence de ce type au nom de l'écologie.
Non, parce que on voit quand même. Après, on peut faire un débat sur les bassines. C'est très intéressant le débat. Ouais. C'est difficile d'avoir d'ailleurs une opinion tranchée.
Tout à fait.
Parce que si on veut quand même que l'agriculture française continue à survivre, il va falloir quand même de l'eau parce qu'il faut de l'eau pour faire l'agriculture.
Oui, mais là, on est d'accord que là, depuis quelques années, et moi, j'entends très récemment,
j'entends des spécialistes dire que ça touche pas une nappe phréatique, c'est le surplus.
Mais oui,
bref, donc,
bien sûr.
Mais ça serait bien d'écouter les spécialistes.
Il y en a qui disent que ça touche aussi les bassines.
Mais donc, il y a un débat. Mais là, pardon, ça, c'est l'ultra-gauche, c'est des anticapitalistes, anti-système. Eux, ils s'en foutent des bassines, finalement. Ce qu'ils veulent, c'est de renverser le système.
Comme dit Mélenchon.
Moi, je ne sais pas,
Olivier,
ça change rien. Donc
laisse-les avec les élus qui sont là. Pourquoi? Non, parce que c'est aux élus qui sont là de les gérer.
Non, ça te choque pas que des élus participent à ça? Quand j'entends Marine Tondelier, la patronne des écolos, qui est très ambiguë, parce que bien sûr qu'elle condamne les violences, elle peut pas faire autrement, mais en même temps.
Elle a un point de vue sur les bassines.
Mais en même temps, elle va dire oui, mais les policiers, il y en avait trop, etc. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une manif interdite. Je vois pas pourquoi une députée avec une écharpe tricolore.
Non, mais il y avait Yannick Jadot, il y avait plein de gens qui sont tout le monde.
Non, c'était.
La dernière fois, Yannick Jadot est passé.
Non, mais là, il y avait les écolos et quelques insoumis.
En fait, leur technique, c'est tout, comme dit Mélenchon dans une vidéo qui date, mais voilà, tout conflictualisé. Ouais, et en fait, il est là le problème. Il est là, en fait, c'est plus de la démocratie. Et quel que soit le président en place, mais en fait, c'est ça l'idée, tout conflictualisé, c'est-à-dire trouver tous les prétextes pour installer le chaos, parce que c'est une façon de faire. LFI n'espère pas gagner la présidentielle demain, ils le savent très bien. Mais tout conflictualiser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du détail, il n'y a pas d'intérêt général. Il n'y a pas de se dire, nous on est force de proposition et sur l'écologie, on va faire forcing.
On ne cherche pas un consensus,
non,
c'est pas
rien,
de nuance.
Et ça, c'est un problème.
Alors attends, on a Benoît qui était à la manifestation, Benoît qui nous appelle des Deux-Sèvres justement. Bonjour Benoît.
Bonjour les GG.
Bon, alors, qui est responsable de ce qui s'est passé, de ces violences, alors selon vous, Benoît?
Un petit peu tout le monde. Donc, en fin de compte, il y a un cortège qui est parti à 5 km des bassines pour aller, prendre les bassines. C'est un grand mot, parce que prendre, en fait, actuellement, le chantier, c'est quoi? C'est un grand trou de terre. D'accord? C'est une surélévation du sol. Les personnes se sont rassemblées la veille, l'avant-veille. Ils se sont tous allés dessus. C'était un cortège, on passait par les routes. Et en fin de compte, à partir du moment où on arrivait à 200 mètres, on était accueillis par des couacs qui commençaient à tourner en rond. Et là, les hostilités ont commencé. Alors, en ce qui concerne les casseurs, on parle d'extrême gauche, de militants, de tout ce qu'on veut. Il y a trois catégories. Donc, 95% des gens c'était des militants écologistes, mais c'est surtout des gens du coin qui venaient militer, d'accord ? Parce qu'à savoir qu'on était très très contrôlés, les véhicules, tout ce qui n'avait pas des plaques 79, c'était hyper hyper contrôlé, et en fin de compte, quand on arrivait sur le parking, 90% des véhicules, c'était des 79, des 86, des 17.
Des locaux, donc, quoi, en fait,
des
c'est
locaux.
Ça.
Ouais. Donc déjà, 90% de la population, c'était ça. Après, on entend parler de l'ultra-gauche ou autre, des MPA, Poutou, il était là, ils étaient 10. On n'entend parler que d'eux, mais eux, ils étaient que 10.
D'accord, mais alors,
les 62 couteaux, alors, qui les possédait ?
Ben, 62 couteaux, si vous les cherchez, vous les trouvez. Mais quand je vois qu'il y avait 25 000 manifestants, on trouve 10 HS.
Non, il n'y avait pas 25 000 manifestants, déjà. Déjà, le chiffre, il est pas bon.
Alors, mais... voilà. Là, vous parlez de quel chiffre ? Vous parlez du drone des gendarmes qui était dans la fumée et qu'ils n'arrivaient pas à faire monter en hauteur ?
On voit les images très claires. On voit des images très claires des drones et on voit bien sans nuages de fumée. On les a encore regardés ce matin pour préparer l'émission. Il n'y a pas 25 000 personnes. Il n'y a jamais eu 25 000 personnes.
Alors comment vous expliquez qu'il y avait 10 000 au campement ? C'est-à-dire que eux, s'ils en ont compté 6 000, c'est-à-dire qu'il y en a 4 000 qui ont fui avant ?
Mais Benoît, moi je voudrais comprendre qui sont ceux qui avancent sur les gendarmes avec des espèces de boucliers, de
voyez.
Qui...
Non,
ils sont quoi ? Ils sont 80, moi, ils avancent. Alors qui est ça ?
Il y en a une centaine. Bon, ça c'est clair, c'est type anarchiste. Ils ont les cheveux en fluo, parce que... faut pas oublier le fond. Eux ils venaient, il y avait quand même des artifices, faut pas rêver, il y avait des artifices, il y avait des mecs qui avaient des grandes cannes d'artifices, il y avait des gens qui avaient des raquettes de tennis, qui faisaient des tas de pierres et qui shootaient pour il y en a qui étaient là pour
parce que là c'est pas les gendarmes eux-mêmes qui ont mis le feu à leur véhicule, on est d'accord.
L'ai pas nié, il y avait du feu d'artifice, il y avait des mortiers,
il y avait des cocktails Molotov aussi.
Il y en avait pas 500, il y en avait peut-être une dizaine qui sont partis.
Ce qui est quand même incroyable, Benoît, c'est qu'il y avait des élus sur place et qu'en fait s'il y avait une centaine de casseurs venus spécialement en découdre. Non, la réaction des élus, ça aurait été sur place justement de condamner fermement ces casseurs, etc. Mais eux, le problème de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, de LFI, de la NUPES, etc., c'est qu'ils viennent sur les plateaux télé et ils crient aux violences policières. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils protègent les 99% de manifestants pacifiques qui, même s'ils n'avaient pas le droit... Non mais... c'est ça qu'on n'entend pas. On n'entend pas du tout. Voilà, il y a une espèce de complaisance sur la casse.
Alors Zora, moi je suis père de famille, je pouvais pas me permettre d'aller au front. Franchement, je milite parce que.
Mais même le terme d'aller au front, c'est pas la guerre.
Mais pourquoi vous êtes contre ces bassines, Benoît, vous êtes contre les bassines ?
Ah ben totalement pour.
Alors pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi.
Ben c'est très très simple. Si on prend la bassine de Sainte-Soline aujourd'hui, c'est 800 000 mètres cubes. D'accord ? Ouais. 800 000 mètres cubes pour le remplir, c'est une pompe qui tourne H24 pendant 50 jours à 650 mètres cubeurs. La petite rivière qui passe en bas de chez moi, elle est à 200 litres seconde. Si vous calculez, ça fait 720 mètres cubes heure. C'est-à-dire que la petite rivière en bas de chez moi, le jour où il remplit sa bassine, elle ne coule plus pendant 50 jours.
Et si on ne remplit pas la bassine, elle va où la rivière ?
L'eau de la rivière.
Eh oui. Bassines, elle va où la rivière ?
C'est très très simple. On ne pioche pas dans la rivière.
Elle va où la rivière ?
Non mais la rivière va à la mer. Mais
voilà.
Non mais attendez.
Fin de la blague.
On peut rentrer dans le
débat.
C'est tout ? Zora, ça va être très très simple. La nappe phréatique, si on coule dedans, l'eau qu'on va avoir dans notre robinet l'été, on n'en aura plus.
D'accord. On va prendre de l'eau d'une rivière qui est déraminée, qui va à la mer.
Oui, mais sauf que...
En Deux-Sèvres,
elle va à la mer, mais surtout le long, elle change des choses.
Des châteaux d'eau qui n'étaient pas remplis cet été. D'accord ? Donc, pour privatiser, pour faire pousser des maïs, où en plus, on ne va même pas pouvoir jouir de ces graines-là, parce qu'on préfère les exporter, on ne va pas avoir d'eau dans le robinet.
Non, ça, c'est pas vrai. Benoît, j'espère que les agriculteurs vont appeler, parce que c'est pas vrai, là. J'entends le truc qui dit oui, alors c'est pour le maïs et c'est à l'exportation. Moi, j'entends surtout les agriculteurs qui disent que c'est des réserves de substitution pour les semences, l'élevage, le melon, des produits qui sont faits en France. On peut pas à la fois défendre une souveraineté agricole et alimentaire en disant c'est bien de produire ce qu'on mange et être contre l'utilisation de l'eau par nos agriculteurs. Parce que si nos agriculteurs ne peuvent plus utiliser l'eau, on ira acheter nos fruits et légumes, mais ça sera bien en Espagne. Il y aura des bassines en Espagne.
On n'est pas sûr que ce soit pour des circuits courts.
Et en deux, tout cas, moi j'ai écouté des agriculteurs qui le disent.
Et deux, vraiment,
les semences, non, mais, c'est bien pour
deux. La vraie question de la gestion des réserves d'eau en période de pénurie, est-ce que c'est une priorité sur une autre? C'est ça la vraie question.
Pour les agriculteurs, tu ne trouves pas que c'est une priorité?
Non. Pour les agriculteurs, mais moi je te parle de l'ensemble des Français. Après moi, il y a une pénurie.
Pour les agriculteurs, ils travaillent pour les Français.
Les adversaires du truc, c'est
alors,
que c'est
attends, on va continuer
intensive.
D'en discuter dans un instant. En fait, je remercie Benoît d'avoir été avec nous. On sera avec Maxime. Maxime qui veut lui aussi commenter la manif. Et puis on aura un représentant aussi des jeunes agriculteurs pour voir quel est son point de vue.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui Zora Bitan, cadre de la fonction publique, Thomas Porcher, professeur d'économie. Nous sommes avec Charles Consigny, avocat. Écoutez le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ce matin qui commentait les événements de Sainte-Soline sur RMC BFM TV avec Apolline de Malherbe.
Il est irresponsable lorsque vous avez une manifestation qui est interdite parce qu'on le dit, il y aura des personnes violentes qui ne viennent pas pour la cause écologique, qui n'en ont rien à faire, mais qui viennent là-bas pour taper et attaquer nos institutions, qu'il y ait des représentants de l'institution sur place qui expliquent que le problème c'est les policiers. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, ses tweets de ce week-end. Jean-Luc Mélenchon, il est insoumis devant les violences policières, mais il est soumis devant toutes les autres formes de violence. Et vous savez pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon et ses amis, ce sont les rentiers de la colère, les rentiers de la misère des petites gens, et sont les actionnaires de ces formes de violence. Depuis 20 ans, dans notre pays, on assiste à une montée progressive de la réponse violente lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. Et j'ai commencé par vous dire, moi je condamne toute forme de violence. Je la conteste. Elle n'est jamais justifiable. Ce n'est pas, il y a eu de la violence, oui mais. Jamais de oui mais en l'occurrence.
On va passer par la Haute-Savoie maintenant. Écoutez Maxime qui est avec nous. Bonjour Maxime.
Bonjour les GG.
Comment vous réagissez à ce qui s'est passé à Sainte-Soline? Alors, à qui la faute selon vous alors?
Alors, moi déjà, la première chose à laquelle ça me fait penser, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le José Bové dans les champs pour les OGM. C'était exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et quand on regarde avec le recul maintenant, bah, José Bové, il est au Parlement européen et les OGM ont été interdits. Donc moi, je pense à mon avis que ces bassines, elles subiront un petit peu le même sort. Ensuite, j'ai entendu, alors franchement, honnêtement, on peut dire que c'est vraiment de la fake news, quoi. Monsieur Truchot, Madame Bitor, s'il vous plaît, arrêtez. Je crois que c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait un cocktail dans la main, qui a organisé toute la manifestation. Et il me semble que je l'ai vu même sur un quad qui demandait à tout le monde d'avancer et sur tout le monde. Faut arrêter, il y a deux secondes, s'il vous plaît.
Qui a dit que c'était Jean-Luc Mélenchon? Moi, j'ai pas parlé.
Mais attendez,
j'ai parlé de Clémence Guettet, députée insoumise qui était sur place, et de Marine Tondelier, députée écologiste qui était sur place.
Avec Monsieur Truchot, c'est LFI Mélenchon. Je sais pas, moi, j'ai pas vu Jean-Luc Mélenchon sur le champ.
Je vais vous répondre, c'est pas grave, allez-y, continuez.
Continuez, Maxime. Allez-y, Maxime.
Ce que j'ai vu, c'est 3000 policiers venir défendre un trou dans un champ. Je sais pas, c'était pas, ils défendaient pas l'Élysée, ils défendaient pas la République. Non. On a mis 3000 policiers pour défendre un trou. Mais je sais pas, est-ce que le gouvernement...
Mais c'est pas qu'un trou, hein. Il y a des installations hydrauliques dessous aussi, hein. Il y a pas qu'un trou.
Pour l'instant, c'est de l'eau et un trou.
Non, il y a des tuyaux dessous, il y a des pompes. Alors, vous pouvez dire
ça. Oui, mais est-ce qu'on va encore privatiser l'eau? Parce qu'en plus, vous voyez, on parlait de Mélenchon tout à l'heure, mais il me semble que ce gars-là nous avait bien prévenu qu'on allait avoir des gros problèmes sur l'eau pendant la campagne.
Maxime, on peut vous répondre? Vous pouvez vous répondre, Maxime? Parce que vous accusez. Moi, j'ai pas parlé de Mélenchon. J'ai parlé de Clémence Guettet, la députée insoumise qui était sur place.
On laisse la parole. Quand j'ai dit fake news, je veux préciser quand même, c'est quand vous avez commencé à dire, dès le début de l'émission, les manifestants sont venus et ont prévenu qu'ils venaient pour casser.
Oui, bien sûr. Non, c'est vrai.
Ça, c'est factuel.
Ah ben, c'est factuel.
Non, ce n'est pas factuel.
Ah ben, je vais vous envoyer les hashtags, qui circulaient depuis plusieurs jours.
Je ne parlais pas de hashtags, moi, je vous parle des gens qui ont organisé la manifestation. Ceux qui ont organisé la manifestation, ce sont des gens qui étaient sur place. Ce sont des élus. Ils ont dit qu'ils venaient.
Une manifestation qui était interdite.
Une manifestation tranquille.
Qui était interdite.
Maintenant, il y avait parmi eux, et ça, on le savait, puisque.
Maxime, la manifestation n'était-elle pas interdite?
Monsieur Darmanin, oui, mais excusez-moi.
Ah bon, bah voilà.
Les OGM, c'est interdit.
Fin du débat. Les OGM, je pense que. Oui, on peut faire un débat sur les OGM. C'est peut-être une connerie de les avoir interdits. Oui.
Aujourd'hui, monsieur Truchot.
Je crois qu'il y a des millions de gens qui mangent des OGM.
Pourtant, quand ils allaient casser dans les champs et ils faisaient ce qu'ils faisaient, on disait que c'était interdit, etc. Donc, si vous voulez, on voit bien que des fois, la désobéissance civile peut avoir du bon.
C'est bon pour la santé, les OGM.
Ce que je veux vraiment, c'est qu'on reste sur le fait que tous les gens qui ont organisé cette manifestation
étaient interdits
pour casser.
Ok, interdit.
Non, mais d'accord. Et ceux qui sont venus pour casser.
Et qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont venus pour casser? Qu'est-ce que vous en dites?
Alors là, mais à 200%, si on peut les attraper, les mettre en prison parce qu'ils ont fait, ils ont envoyé des cocktails dans les camions de police, etc. Alors là, à 200%. Mais par contre, quand vous essayez de faire croire aux gens que ceux qui ont manifesté, c'est-à-dire ceux qui ont organisé la manifestation, avaient prévenu qu'ils viendraient pour casser, vous mentez.
C'est pas ce qui a été dit.
C'est pas ce qui a été dit.
J'ai dit qu'il y avait des hashtags. J'ai dit qu'il y avait des hashtags depuis quelques jours.
C'est pas ce que vous avez dit.
Si. J'ai dit que ce sont les casseurs, podcast, les casseurs venaient sur place pour péter du flic et que le sachant, élus n'auraient pas dû être là et vous-même vous n'auriez pas dû être là parce que finalement vous participez à quelque chose de violent.
Ils allaient venir pour casser. Non, eux ils ont dit ils venaient manifester. Il y avait des casseurs comme pendant la manifestation.
La manifestation à Paris, elle était autorisée, donc ça n'a rien à voir. Là, c'est une manifestation interdite et qui servait de base à des affrontements.
Ceux qui viennent manifester tranquillement.
Les casseurs avaient prévenu qu'ils venaient.
Il n'y a pas de manifestation tranquille quand c'est interdit. Vous prenez le risque d'aller vers la violence.
D'accord, mais des fois, vous voyez, l'histoire nous a montré que la désobéissance civile, ça ne veut pas dire la casse ou aller frapper ou ce que je veux dire.
Donc, c'est parce qu'il s'est passé samedi, là.
Le simple fait de désobéir, mais pas par la force forcément ce qu'ils étaient en train de faire, peut amener à de bons résultats. Et je vous rappelle une fois de plus, les OGM, tout le monde sait.
Mais détruire la culture des champs en les piétinant, vous appelez ça une manif tranquille?
Non, mais vous inversez la charge, là, excusez-moi. Ah bon? On est en train de parler de gens qui veulent privatiser l'eau.
Mais c'est pas privatisé.
C'est très bien. Vous avez parlé des agriculteurs, c'est très bien. Excusez-moi.
Vous êtes un agriculteur, vous, visiblement.
Il n'y avait pas une organisation d'agriculteurs sur place avec eux qui manifestaient, M. Truchot?
Majoritairement, les agriculteurs sont pour les bassines.
Oui. Ah, d'accord. Vous voyez que tous les agriculteurs ne sont pas d'accord.
Il y a le député européen soumis qui vit surtout d'ailleurs de ses émoluments de député que de l'agriculture française.
Ouais, monsieur Bitot.
C'est vrai. Ce que j'aimerais, c'est que vous soyez factuel quand vous dites des choses, parce qu'il y a quand même des millions de gens qui vous écoutent.
Majoritairement, les agriculteurs défendent les bassines, oui.
Alors, vous savez quoi, Maxime?
Elle appartient à tout le monde.
Maxime, vous êtes prêt au débat?
Mais bien sûr.
Attendez, bougez pas, parce qu'on a le vice-président des jeunes agriculteurs qui nous appelle de l'Hérault, Rémi Dumas, qui est avec nous. Bonjour, Rémi Dumas.
Bonjour.
Voilà, Maxime, on a compris, contre les bassines. Donnez-nous de bons arguments pour dire qu'on a besoin de ces bassines, alors, monsieur Dumas.
Ben, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans ses placards et son frigo pour manger tous les jours. Est-ce qu'on a besoin d'importer notre alimentation? Il faut savoir que il y a principalement du tournesol ou des protéagineux qui sont produits et donc on a besoin d'eau. Si on en a besoin, on l'utilise. Si on en a besoin. Mais on en a besoin à cause du réchauffement climatique. On en est tous conscients. Maintenant, nous, on a travaillé. On a travaillé sur un barème de l'eau. On a fait des tables rondes. Nous avons discuté autour de la table pour trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord. Il y avait quelques agriculteurs, mais ils ont de paysans que le nom de leur syndicat, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent produire? De quoi ils vivent? Moi, j'ai envie de vivre du fruit de mon travail. Je travaille tous les jours. Là, je suis en train de faire des heures de tracteur pas possible parce que j'ai réduit mes produits phyto. On essaye de tous bien faire. Il y a un truc qu'on aimerait, c'est produire l'alimentation des Français en France. Et pas que, parce qu'est-ce que ces gens-là, ils pensent à l'ensemble du monde? Parce que oui, l'agriculture est mondiale. Et demain, s'il y a des gens qui crèvent de faim encore plus, et notamment dans les pays du Maghreb, ça sera aussi de notre faute. Il faudra qu'ils se regardent dans la glace, ces gens-là. Ils nous regardent comme des fous. Ils se disent, mais ces gens-là, ils veulent arrêter de produire aussi notre alimentation.
Et pourquoi vous avez besoin de ces bassines? Est-ce qu'elles ne pompent pas les nappes phréatiques, ces bassines, Rémi Dumas? Parce que c'est l'argument qui est avancé aussi aujourd'hui en disant qu'elles sont anti-écologiques, qu'elles vont prendre trop d'eau plus pour de l'agriculture intensive. Il y a des rapports qui ont été faits avec des hydrologues. Alors, ils ne sont peut-être pas d'accord entre eux non plus, les hydrologues, mais ça existe aussi, Rémi Dumas. Que rendez-vous à cet argument?
Non, mais personne ne sera jamais d'accord parce que tout le monde va prêcher pour sa part. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est qu'il y a des millions de mètres cubes d'eau qui tombent encore en France sur l'ensemble du territoire, qu'on ne capte pas, qui partent à la mer. On sait que les mers et les océans montent, le niveau monte, et cette eau-là, elle part quand même à la mer. Nous, on demande juste de capter cette eau-là quand il y a un excédent d'eau, l'hiver notamment, et qu'on puisse la relarguer l'été, si on en a besoin, encore une fois. C'est une question de bon sens. Ces gens-là,
si vous en avez besoin, vous en aurez toujours besoin, bon puisqu'on arrive de sécheresse en sécheresse tous les ans maintenant. On le sait, on aura un problème sur l'eau. Au lieu de construire des bassines, pour moi, qui est ridicule, si vous voulez vraiment de l'eau, vous savez combien de millions de mètres cubes sont dépensés parce que nos canalisations sont foireuses? Ben, commencez par ça. Allez voir.
Les réseaux sont en train d'être rénovés, justement.
Oh, la réponse.
Rénover, c'est là-dessus qu'il faut
s'y mettre. On travaille là-dessus. L'un n'empêche pas l'autre.
Il privatise l'eau qui appartient à tout le monde.
Donc aux agriculteurs.
Qu'est-ce que vous allez dire aux gens de votre commune quand cet été ils pourront pas arroser,
à cause des bassines,
ils pourront pas boire,
Attendez Maxime, parce que alors allez-y, répondez sur le fait que les bassines feront en sorte qu'on aura plus d'eau au robinet. Alors allez-y, monsieur Rémy-Dumas.
C'est un bien commun, mais d'abord les bassines, c'est le partage de l'eau. C'est le partage de l'eau, c'est-à-dire que ça ne va pas être que pour le monde agricole. C'est-à-dire que quand on en prendra une partie, et on sait très bien que les prélèvements d'eau pour l'agriculture, ce n'est pas les chiffres qui sont annoncés, donc on prélèvera pour l'agriculture. Et l'agriculture, encore une fois, c'est votre alimentation. Il y a une autre partie qui sera relarguée dans les milieux, et une autre partie pour l'eau potable, pour éviter justement les ruptures d'eau. Donc c'est ça, c'est le partage de l'eau. Mais nous, on a travaillé tout ça. Le problème, c'est que les gens, ils balancent des grandes théories à tout va, et puis des politiques. Alors, on n'en parlons même pas, mais je veux pas faire de politique, c'est pas mon rôle. Mais il faut arrêter. Regardons, et encore une fois, ayons du bon sens. Il
y a alors, des gens après, Rémy Dumas.
Et ils vont manifester contre eux. Mais qui produit sans eau?
Rémy Dumas pas, et Maxime, il faut quand même préciser que ces bassines sont soutenues par le département qui est dirigé par la droite, par la région qui est dirigée par la gauche, avec des écologistes. Donc il y a même un consensus politique. Donc pense que ces gens-là, ils n'ont pas intérêt à priver d'eau potable leurs électeurs.
Mais il y a beaucoup de manipulations idéologiques.
Vous plaisantez, alors que ces gens-là retournent leur chemise suivant l'électeur.
Les seuls qui sont bien, on a bien compris, c'est Mélenchon.
Est-ce que c'est faux ce que je dis?
Le seul qui est bien, c'est Mélenchon.
Je dis juste que j'en ai marre que vous tapiez tous les jours sur les mêmes. Franchement, moi je vous adore les GG, ça fait plus de 10 ans que je vous écoute. Et aujourd'hui je vous écoute.
N'essayez pas de nous prendre par les sentiments.
L'antigauchisme primaire, mais c'est hallucinant quoi. Il y a un truc, c'est la gauche. Il fait pas beau aujourd'hui.
Je viens de vous dire le contraire. Qui défend ces bassines, c'est la région qui est gouvernée par les socialistes. Alors c'est peut-être pas votre gauche, mais la gauche ne résume pas Mélenchon, heureusement.
Des gens qui vivent dessus, qui vous disent non, ils veulent pas, et vous avez des experts qui vous expliquent pourquoi.
Maxime, vous avez un agriculteur qui vous explique, mais vous n'avez pas l'écouté en fait. Vous êtes dans une idéologie en fait.
On revient au sujet de base. Que ce soit réel ou pas, que ça puisse venir ou pas, on en était au départ sur ce qui s'est passé là-bas. Et moi je le redis et je le maintiens, mettre 3000 personnes sur
un trou. Donc c'est la faute des policiers.
Non, c'est pas la faute des policiers. Les policiers ils suivent des ordres. Voyez, donc mettre 3000 personnes dans un trou dans un champ,
il fallait pas venir. Il fallait pas venir.
Appel aux Black Blocs pour leur dire, écoutez les gars, si vous voulez vous battre, venez, c'est ici que ça va se passer.
C'est le complotisme là. Je pense que c'est l'État qui a organisé la casse.
Madame Vitan, on vous écoute à chaque fois que vous parlez, c'est toujours de la faute de quelqu'un.
Oui, mais c'est l'État qui a organisé la casse. On est au courant.
Vous avez bossé pour eux. Je crois qu'ils vous ont vraiment pas.
Pas pour la même.
Pas pour la même gauche, non.
Pas pour la même. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Alors, je sais pas où c'est que vous étiez pendant les deux dernières élections, parce que les Français vous ont dit que la gauche, aujourd'hui, c'est la NUPES. D'accord?
Donc déjà, ça c'est pour ça qu'il a gagné la présidentielle, Mélenchon.
On parle pas de gagner ou de perdre. On regarde les résultats. Et aujourd'hui, vous avez des millions de gens qui ont voté à gauche, pas à l'extrême gauche. Pour moi, l'extrême gauche, c'est Poutou. Vous voyez? J'ai rien contre lui, je trouve
ça. Pour moi, l'extrême gauche, ça commence à Mélenchon et ça va jusqu'à Poutou.
L'extrême droite, c'est, vous voyez, aujourd'hui, c'est Madame Bitan.
Vous terminez brillamment. Brillamment parce que ça, c'est vraiment la conclusion qui efface quasiment la totalité de vos arguments parce que c'est l'argument de ceux qui n'ont plus rien à dire. Donc merci beaucoup. Merci. J'en attendais pas tant, mais c'est l'illustration même de.
Des méga piscines.
C'est génial. C'est super.
Merci Maxime.
Vraiment, c'est brillant.
Merci de votre dialogue que vous avez eu avec Rémy Dumas, des jeunes agriculteurs. Violence à Sainte-Soline. Alors, on a posé la question sur les réseaux sociaux, justement, aujourd'hui, de savoir à qui la faute. Est-ce que c'est la faute des forces de l'ordre d'ultra-gauche? Bon, c'est l'ultra-gauche à 56% forces de l'ordre.
C'est quand même assez 44%, serré. Mais on n'a pas l'habitude d'avoir des scores comme
ça. C'est vrai.
40.
Les gens sont en train de remonter l'ensemble.
Voilà.
Les gens quand même ici soutiennent plutôt les forces de l'ordre. Là on a un truc.
Je vous conseille d'écouter tout à l'heure, puisque heureusement vous êtes fidèle des GG. Notre débat à 11h20, ça va être pour ou contre la dissolution des braves. Ah. Vous savez là les
forces avec Charles de l'ordre qui fait la minute. Pour ou contre Charles qui fait la minute dans les méga bassines.
Donc on a des pour avec Thomas et Charles et des contre avec Olivier et Zora. Mais dans un instant sera le on s'en fout pas avec notre productrice Adèle Sainz. Et tout à l'heure à 10h, est-ce que le président de la République peut arriver à reprendre la main et apaiser la situation.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec aujourd'hui Charles Consigny, avocat. Nous sommes avec Thomas Porcher, professeur d'économie. Et c'est Zora Bitant, cadre de la fonction publique, qui complète le trio. Il est quelle heure? Il est 10h moins le quart. C'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour. Madame Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Alors les amis, si on revotait demain aux élections législatives, le Rassemblement National serait en tête, selon un sondage IFOP pour le JDD. Et c'est inédit, le RN qui se retrouverait avec en moyenne 165 députés. La NUPES reste quasi stable, plus un point. En revanche, le parti de Macron s'effondrerait. La majorité perd 5 points dans ce sondage, avec seulement 155 sièges contre 250 aujourd'hui, évidemment. Et puis LR aussi qui recule légèrement. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
On s'en fout pas.
Thomas?
On ne s'en fout pas.
Zora?
On ne s'en fout pas.
Thomas? Ouais.
Non, on s'en fout pas parce que là, on voit que le jeu de vase communicant, en fait, profite au Rassemblement National. Et donc, ça, c'est problématique.
Et comment expliquer ça? Ça, c'est intéressant.
Exactement.
C'est la gauche qui est dans la rue et c'est le RN qui en profite.
Voilà. Et on parle souvent de Mélenchon parce qu'on a, là, il a raison, l'auditeur. On a beaucoup parlé de Mélenchon ce week-end. Là, c'est Véran a encore cité Mélenchon ce matin. Et ça profite au RN. Donc là, il y a une vraie analyse de fond à faire.
Charles. Là. Il n'est pas l'affaire. Non, mais ça t'emmerde.
Tu t'arrêtes là. C'est un super teasing,
Il faut la faire. Une analyse de fond, ça se fait pas en 5 minutes. Mais il y a une analyse de fond à faire.
Peut-être, par exemple, ce qui s'est passé ce week-end, ça favorise plus le RN que la NUPES.
Peut-être, mais il faut que je me penche sur la question. Et peut-être la semaine prochaine, au bout d'une semaine, je pourrais vous dire. D'accord. Mais là, il y a un problème. Si les vases communicants profitent au RN et que ça baisse la majorité, il y a un problème pour moi.
Charles.
Non, moi, je pense que les gens sont énervés, donc radicalisés. Donc radicalisé au RN et radicalisé à la NUPES. Et je pense par ailleurs que le RN progresse aussi à cause de la fatigue des autres partis, et notamment des Républicains, dont on voit bien qu'ils sont très très fatigués quand même, et qui sont à nouveau au bord de l'implosion à cause des trajectoires personnelles des uns et des autres. Et donc je pense que en fait le RN prospère sur le vide, mais que si les Républicains faisaient un vrai boulot programmatique, un vrai boulot de communication, s'ils changeaient de nom, s'ils viraient une bonne partie de leur vieux schnock qui s'accroche au fauteuil et qui ringardissent ce parti, ils pourraient faire et s'ils étaient en rupture plus nette, plus dure avec Macron, ils pourraient exister. Mais je pense que comme ils ont une position ambiguë avec Macron, où il y en a certains qui sont tentés par un accord avec lui, tandis que d'autres sont pour une opposition plus résolue, ça fait qu'ils sont illisibles et donc ils disparaissent.
Zora?
Après, il n'y a rien de nouveau à voir que le RN tire toujours les marrons du feu dans ces situations-là, mais on peut noter que chez les Français, il y a quand même un fort désir d'ordre, de sécurité, de rigueur. Et l'opposition aujourd'hui...
On veut tout changer, mais pas dans le bordel.
Mais oui, voilà. Oui. Et l'opposition aujourd'hui de la gauche, c'est-à-dire la NUPES, il ne faut pas oublier que la NUPES, quand même, elle inclut une partie du PS et les Verts, c'est-à-dire cette gauche qu'on a connue, la gauche plurielle d'avant, qui est la NUPES aujourd'hui, elle n'est pas du tout dans l'intérêt général, elle est dans la conflictualisation. Et même si les Français sont opposés à Emmanuel Macron... Pour eux, pour autant, ils n'iront pas chez la NUPES ni dans cette gauche. Donc, ça pose question.
Les GG, Paris, Nantes, Le Havre, les poubelles continuent de s'accumuler dans les rues. La grève des éboueurs qui s'étend dans le privé à Paris. 5 nouveaux arrondissements touchés. Ceci dit, très légère amélioration quand même sur les trottoirs parisiens. Plus que 7828 tonnes de déchets ramassés, grâce notamment à la réouverture des incinérateurs et aux réquisitions. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Thomas?
On s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Zora.
On s'en fout pas.
Charles.
Moi, je pense que Anne Hidalgo a gravement failli une fois de plus à ses missions essentielles. Je pense que quand on se paye des robes Dior sur ne fonds publics, la moindre des choses, c'est de faire son boulot. Je suis désolé. Moi, je suis parisien. Je paye des impôts à Paris qui sont élevés. Je subis tous les jours son délire nuisible, idéologique, qui m'entrave tous les jours dans mes libertés les plus élémentaires. J'observe d'ailleurs que il y a enfin le juge s'est prononcé sur le délire d'Hidalgo et a condamné la ville de Paris pour ce qui a été fait rue de Rivoli pour atteinte à la liberté du commerce, atteinte à la liberté d'aller et venir et mise en danger parce que les secours ne peuvent plus circuler. Donc, en fait, c'est quand même une entreprise complètement folle qui est faite à Paris par cette équipe et par cette femme depuis le début de son mandat. Et je considère que les Parisiens, ils ont au minimum le droit à ce que leur service public élémentaire soit assuré, grève ou pas, et notamment le ramassage des poubelles. Je trouve qu'elle aurait dû prendre les mesures pour que les poubelles soient ramassées.
Il faut préciser qu'elle a changé d'avis. Enfin, la mairie de Paris a un peu changé d'avis et que maintenant, j'ai entendu Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, il participe aux réquisitions. Il faut en sorte quand même d'enlever un peu de poubelles. Donc,
très timidement,
de faire
très tardivement.
Donc, ils ont quand même changé un peu de stratégie, se sont rendus compte.
Oui,
je pense
mais
qu'ils
le premier courrier d'Hidalgo était une honte.
Mais les élus se sont fait engueuler par les Parisiens que maintenant, il voit bien qu'il y a un problème de
cette enchaîne. Les GG, le coup de gueule de l'actrice Laure Calamy contre la réforme des retraites. C'était samedi soir, dans quelle époque, sur France 2?
Déjà, ce passage en force du 49-3 est vraiment insupportable. C'est tout simplement une volonté politique de donner que l'argent, tout l'argent de nos impôts, sert à ça. À ce qu'on est dans un pays, justement, exemplaire. Ouais, dans d'autres pays, il n'y a pas la sécurité sociale. Mais soyons un modèle, bordel. C'est quand même quelque chose qui caractérise ce qu'on enviait à la France. Je veux dire, c'est le modèle social qui a été créé au sortir de la guerre dans un pays ruiné. Et enfin bref, c'est tout. C'est des tas de choses, quand on s'y intéresse, on voit bien à quel point ce sont des mensonges.
Elle a raison.
Oui. Alors, Laure Calamy, qui fait partie des 300 signataires de la Tribune du Monde de la Culture, contre la réforme des retraites, on s'en fout pas de ces artistes qui s'engagent, Thomas.
On ne s'en fout pas. Je vais vous dire pourquoi.
Charles.
On s'en fout pas.
Et Zora, vas-y Thomas.
Alors, moi je m'en fous pas parce que j'adore beaucoup Laure Calamy.
Très rapidement.
Non, je vais vous dire pourquoi je l'aime. Parce qu'un soir je l'ai rencontrée dans un bar.
Mais t'as plus le temps.
Et elle m'a dit, Thomas, je suis en train de lire votre livre.
Ah bah c'est pour ça qu'elle dit ça alors.
Et là je vois qu'elle et son argument, elle a entièrement raison. Parce qu'en fait on a le taux de pauvreté des retraités le plus faible. Il faut en être fier. Donc elle a raison.
Charles.
J'aime bien cette actrice parce que j'avoue regarder cette série
10%
qui me relaxe le cerveau en fin de journée. Mais je suis toujours un peu, si vous voulez, pas Calamy elle-même, mais tous ces producteurs et ces acteurs qui vivent comme des millionnaires, il faut bien le dire, grâce à l'argent public, parce que le cinéma français est financé par l'argent public et ils vivent, pour beaucoup d'entre eux, peut-être pas elle spécialement, et il y en a qui vivent mal, mais il y en a beaucoup qui vivent très très bien.
Elle vit bien.
Moi déjà, je souhaite qu'on autonomise le régime des intermittents du spectacle et du cinéma français. On verra s'ils font les mêmes leçons de morale.
Zora.
Conclusion.
Bon, Charles, il m'a pris tout ce que j'allais dire. Donc je signe ce que vient de dire Charles.
Allez, dans un instant, justement, demain, on a une nouvelle journée de manifestation. Demain, nouvelle journée de manifestation après la prise de parole du président de la République la semaine dernière. On a eu ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end. Le chef de l'État réunit sa première ministre et les gens de la majorité aujourd'hui à la mi-journée. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que le président de la République, Emmanuel Macron, et sa majorité peuvent reprendre la main et apaiser la situation?
Oh là là.
C'est au 32-16 que ça se passe. On vous attend dans les jeux avec Thomas Porcher, Charles Consigny et Zora Bidan.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.